Radio Kapi.
Oh Kapi.
Oh Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal Nord Kivu, la société civile du territoire des Rutshuru exprime sa vive préoccupation sur la dégradation de la situation sécuritaire du groupement de Tongo. Par contre, un calme précaire règne ce jeudi matin dans les groupements de Kibumba et Bouumba au nord du territoire de Niragongo. La secrétaire d'État belge à l'asile et la migration tire la sonnette d'alarme sur le fait que la Belgique fait face actuellement à une augmentation de demandes d'asile venant de la RDC. Elle a dit lors d'une conférence de presse tenue hier, mercredi, ici à Kinshasa. L'invité de ce journal est le coordonnateur du projet d'appui pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM PME. Alexis Mangala est à Kananga, au Kasaï Central, avec son équipe pour sensibiliser différents acteurs sur les projets Transform. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, un calme précaire règne ce jeudi matin dans les groupements de Kibumba et Bouumba au nord du territoire de Niragongo. Ces entités ont vécu des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 hier mercredi. Certaines sources administratives et la société civile du territoire de Rutshuru expriment leurs préoccupations sur la dégradation de la situation sécuritaire du groupement de Tongo en territoire de Rutshuru, où des tirs ont encore été entendus jusque tard dans la nuit. Des détails avec Blaise Sindani Kambala.
Aucune détonation n'est entendue ce jeudi matin dans la partie nord du territoire de Niragongo après des tirs d'artillerie lourde qui ont opposé hier mercredi le FARDC aux rebelles du M23 dans les groupements de Bouumba et Kibumba. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas de réaction des FARDC sur la situation. Le deuxième front a opposé hier mercredi les FARDC aux rebelles M23 sur l'axe Tongo. Certaines sources proches de l'administration locale font état de l'occupation d'une grande partie du groupement de Tongo hier par les rebelles. Ces derniers tenteraient d'avancer vers Kichanga, passant par Bichusha. C'est ce qui contraint certains habitants Bichusha, Birambizo et Bukombo, notamment à fuir vers Kichanga. Difficile pour l'instant d'avoir les bilans de ces affrontements, excepté les 5 civils, dont une femme qui aurait été blessée hier par des éclats d'un obus dans les périphéries de la localité de Tongo et dont parlent plusieurs sources civiles.
Nord Kivu encore, la ville de Goma a accueilli à ce jour plus de 200 éléments du contingent kenyan déployé dans l'est de la RDC. Une deuxième vague d'une centaine de militaires est arrivée hier mercredi à Goma dans le cadre de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Selon leur commandant, ces éléments ont pour mission d'appuyer les FARDC dans différentes opérations de rétablissement de la paix dans l'est du pays. Lors d'un point de presse hier à leur arrivée, le général-major Jérôme Chico, sous-chef d'état-major adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, s'est dit optimiste quant au succès de cette mission offensive. Et puis toutes les forces vives de la ville de Lubumbashi se sont mobilisées pour la grande marche de soutien au FARDC et au président de la République. Plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation y ont aussi pris part. Organisée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga en collaboration avec l'Assemblée provinciale, cette marche est partie du siège de l'Assemblée provinciale et a eu pour point de chute la grande place de la Poste où Jacques Kiaboula a demandé à la population de dire non à l'agression de notre pays par le Rwanda qui opère par procuration à travers le 23. À cette occasion, le gouverneur du Haut-Katanga a encouragé les jeunes à se faire enrôler dans l'armée pour répondre à l'appel du chef de l'État afin de faire échec au plan de déstabilisation de notre pays. Pareil dans la province du Maniema, où la société civile Force Vive a mobilisé toutes les couches des populations pour sa descente dans la rue afin de manifester leur soutien au FARDC, mais aussi dénoncer l'agression rwandaise. À la tribune centrale de Kindu, le président de la société civile Force Vive a demandé au chef de l'État de rompre avec tous les accords du Rwanda. Maître Stéphane Kamundala souhaite également que les minéraux de cette province ne puissent plus quitter le Maniema vers le Rwanda. Le gouverneur intérimaire de la province du Maniema a également adressé un message de sensibilisation aux jeunes à intégrer l'armée congolaise. Le président de l'ECID, Martin Fayoulou, s'est dit prêt à rencontrer son frère Félix Tshisekedi pour parler seulement du Congo. Cette affirmation est faite par Joseph Olengankoy, président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre-Sensa. Depuis hier mercredi, il a entamé une série de consultations auprès des hommes politiques et compte élargir le champ à toutes les forces vives du pays. C'est en vue d'une cohésion nationale autour des valeurs républicaines et pour sauver la nation en danger à la suite d'insécurité de l'Est. Après avoir rencontré Léon Kengo Dondo, il a échangé avec Martin Fayoulou. Les propos de Joseph Olenganko y sont proposés ici par Jeff Ngoy.
On ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime et ce qu'on n'aime pas pourvu qu'ils soient des citoyens de ces pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois du pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays. Vous savez, nous avons vu le Soudan. Les gens croyaient que comme c'était un dessin animé. C'est pour ça que le CNCA est venu toquer dans la porte du président Fayoulou pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture. Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort. Pour l'intérêt de la République, il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue.
Martin Fayoulou a réitéré son appel à la population congolaise de soutenir les FARDC qui sont au front. Mais il demande au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de dévoiler au peuple congolais les accords qu'il a signés avec les pays agresseurs. Au sujet du consensus politique, le président de l'ESID a rappelé à Olenganko sa volonté de mettre en œuvre les réformes politiques, principalement les questions électorales, gage de la sortie de crise, selon nos sources. En Ituri, les activités économiques sont restées paralysées ce jeudi dans plusieurs grands centres commerciaux du territoire d'Irumu. C'est notamment à Bunia, Komanda ou Mungamba, où boutiques et magasins tenus par les membres de la communauté Yira sont restés fermés. C'est en réponse aux journées villes mortes décrétées par les responsables de cette organisation culturelle face aux tueries et autres exactions de leurs membres par des hommes armés. Ils conditionnent la levée de ce mouvement de grève par l'aboutissement des enquêtes sur toutes les victimes mortes ou disparues. Jean-Claude Lokidile pour le détail.
Du 23 octobre à ce jour, 23 personnes sont mortes, dont deux entités de la chefferie de Walesse et Vonkutu. Il s'agit des groupements Bukutu et Badiangu, où ces civils ont été tués par des éléments de la milice Chiniatuna, affirme le président de Yira en territoire du Rumu. 5 personnes sont portées disparues, dont les derniers cas en date et l'enlèvement le 9 novembre 2022 du président de FEC de Makayanga. Jusqu'à ce jour, ce dernier reste introuvable, affirme John Muhindo.
Les gens continuent à être kidnappés, bien d'autres sont en train d'être tués. Qui est massacré là. Alors nous attendons les rapports de l'enquête, donc le résultat de l'enquête des autorités territoriales et le service de sécurité. Quand ils vont nous présenter le rapport là, c'est maintenant que nous allons lever les mesures prises.
À Bunia sur place, plusieurs boutiques et magasins n'ont pas ouvert leurs portes. Même au marché central, par exemple, tout comme sur les grandes artères de la ville, les maisons de commerce sont fermées. D'après certains habitants, des opérateurs économiques ont obéi au mot d'ordre des responsables de la communauté Yira. Certains travailleurs qui utilisent ces opérateurs économiques se disent durement frappés par cette mesure. Difficile de se procurer un peu d'argent pour nourrir ma famille car je suis payé journalièrement, nous a déclaré un manutentionnaire. Tous nos efforts pour obtenir la réaction des autorités militaires n'ont pas abouti. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, les habitants du groupement Moliro en territoire de Moba ont dénoncé hier mercredi l'occupation illégale d'une portion du territoire congolais par l'armée zambienne. Cela fait suite à un conflit de limites frontalières entre la RDC et la Zambie en 2020. Les militaires zambiens avaient investi le village de Kibanga en RDC et l'occupent jusqu'à maintenant. Le point avec Pone Munanga.
D'après plusieurs sources, en mars 2020, des militaires zambiens avaient fait incursion sur les territoires congolais à Moba dans le groupement de Moliro, précisément au village Kibanga. Des troupes de FARDC avaient été déployées dans la zone. Les mêmes sources renseignent que les militaires zambiens avaient investi le village Kibanga et hissé le drapeau zambien après avoir descendu celui de la RDC. Les armées de la RDC et de la Zambie s'étaient même affrontées dans ces villages. Finalement, les deux parties avaient décidé de résoudre ces différends de façon pacifique. Et même des experts de la SADC font partie de ces processus. Cependant, les habitants de cette contrée de la RDC fustigent le silence des autorités du pays sur ces dossiers qui, d'après eux, n'a pas avancé depuis plus de 2 ans. Nous constatons que le gouvernement congolais ne se préoccupe pas de ces dossiers. Nous ne savons pas si c'est le gouvernement qui a vendu cette portion du territoire. Qu'ils nous disent alors où se trouve la frontière. Contacté à ce sujet, le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika rassure la population constitution de cette contrée qu'il y a des avancées sur ces dossiers. Pierre Lumbwe Kazimoto annonce qu'une réunion est prévue dans 3 mois avec la partie zambienne à ce sujet. Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Insécurité dans le territoire de Kwamout, Thomas Ndombe. Une jeune femme a été tuée mardi dernier dans la cité de Kwamout par un élément incontrôlé de FARDC qui a tiré à bout portant sur elle. Selon la société civile locale, il s'agit de sa concubine trouvée avec un autre homme. Cette structure indique aussi que des militaires commis pour sécuriser cette cité commettent plusieurs dérapages. Par exemple, les biens de la population sont ravis par certains d'entre eux. Joint à ces sujets, les sous-lieutenant Kienge Jacques, chargé de communication à la 11e région militaire de Kikwit, présent à Kwamout, indique que des audiences foraines vont être organisées sur place pour juger tous les cas de dérapage et les concernés sont déjà aux arrêts. Il est au téléphone de Irène Boma.
L'armée a arrêté l'individu et donc l'armée a arrêté le militaire et bientôt il va être comparé à la justice.
Mais nous avons également appris qu'il y a plusieurs dérapages de la part des militaires dans la cité de Kwamout. Qu'est-ce que l'armée entrevoit pour ces militaires qui commettent la tracasserie?
Pas de dérapages comme tel, parce qu'il y a des chefs, les commandants les contrôlent. C'est qu'il faut les dérapages, les TTZ, là, les militaires contrôlés, ont été arrêtés et bientôt les audiences vont bientôt commencer ici à Kwamout. Nous sommes avec l'auditeur supérieur militaire et nous sommes avec l'auditeur des garnisons de la ville de Bandung. Ils sont ici, tout militaire qui sera arrêté dans l'angle des actions, qui sera arrêté et ce sont eux qu'il faut les mettre en justice. J'ai dit à toute la population d'être calme, de collaborer bien avec les militaires et bientôt vous allez voir un bon résultat autour des militaires et partout, même avec la population.
La secrétaire d'État belge à l'asile et la migration tire la sonnette d'alarme sur le fait que la Belgique fait face actuellement à une augmentation des demandes d'asile venant de la RDC. Elle a dit lors d'une conférence de presse tenue hier mercredi à Kinshasa. Cependant, Nicole Desmaures a indiqué que la Belgique va poursuivre ses engagements dans les années qui viennent, car sans une coopération intense avec les autorités congolaises, nous donnons champ libre aux trafiquants, a-t-elle indiqué. Kelly Yoka pour plus de détails.
La Belgique veut arriver à une migration contrôlée et juste. C'est le souhait émis par Nicole Desmaures, secrétaire d'État belge à l'asile et la migration.
Je suis ici pour renforcer notre relation pour gérer les flux migratoires. Et la Belgique veut arriver à une migration contrôlée et juste. Et pour cette raison, on mène aussi des campagnes de prévention et d'information pour informer les gens des manières dont on peut voyager vers la Belgique et aussi informer les gens sur les risques et les dangers d'une migration clandestine.
Il faut un objectif précis aux Congolais désireux d'immigrer en Belgique, a-t-elle ajouté.
Un Congolais qui veut voyager vers la Belgique pour y visiter, rendre visite ou pour y séjourner, doit tout d'abord se demander qu'est-ce que je vais faire en Belgique. Est-ce que je vais rendre une visite familière, une visite touristique ou est-ce que je vais étudier, travailler, faire des affaires. Et ça, c'est très important parce qu'on a besoin d'un objectif pour le voyage et après, on doit fournir tous les documents pour la demande de visa.
Notons qu'entre janvier et septembre 2022, l'Office des étrangers belges a enregistré 603 nouvelles demandes contre 303 en 2021.
Comme vous le savez, Radio Okapi a déployé ses journalistes à Kolwezi pour une série d'activités dont la production des émissions grand public avec Okapi Service. Rejoignons sur place Jean Gandou pour parler de cette première activité. Jean Gandou, bonjour, comment ça se passe là-bas?
Bonjour Jean-Désiré Kanyama, nous nous retrouvons dans l'amphithéâtre Kabila Tshisekedi de l'Université de Kolwezi au quartier Moussompo, commune de Manika. Le go de cette émission est donc donné à quelques minutes et déjà le public est dans la salle. Pour cette première journée, il sera question de débattre sur les thématiques suivantes. Quels sont les défis de la formation de l'élite dans les institutions universitaires et quelles sont les dispositions légales relatives à la sous-traitance dans le secteur minier? Les étudiants de l'Université de Kolwezi vont dans l'interactivité participer à cette émission grand public. Déjà, il faut saluer l'enthousiasme manifesté par cette élite intellectuelle en formation.
Jean Gandou, ces émissions grand public prendront combien de jours?
Elles prendront 2 jours. Demain vendredi, 2 autres thèmes seront débattus, c'est notamment contribution des entreprises minières à l'essor du développement du Lualaba et comment créer plus de zones d'exploitation minière artisanale afin de réduire la délinquance juvénile. Ce sont donc les thèmes de ces 2 jours d'émission. En attendant, nous disons bienvenue à tous les Lualabais qui veulent donc y participer. Cette c'était donc Jean Gandou, à partir de l'amphithéâtre Kabila Tshisekedi de l'Université de Kolwezi dans le Lualaba.
Merci Jean Gandou, on y reviendra dans nos prochaines éditions.
Actualité internationale.
Une nouvelle vague de frappes russes a touché ce jeudi matin plusieurs régions d'Ukraine, faisant au moins un blessé, ont annoncé les autorités ukrainiennes. À Dnipro, deux sites d'infrastructures ont été touchés et une personne a été blessée, a indiqué la présidence. À Kiev, deux missiles de croisière ont été abattus par la défense ukrainienne, alors que près d'Odessa, des infrastructures ont été touchées, selon les autorités régionales respectives.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur du projet d'appui pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM, PME. Alexis Mangala est à Kananga au Kasaï central avec son équipe pour sensibiliser différents acteurs sur le projet Transforme. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Alexis Mangala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
En tournée à Kananga, à la tête de l'équipe de coordination de la mise en œuvre du PADEM PME, une mission de sensibilisation à Kananga. Sur quoi porte cette sensibilisation?
La sensibilisation, il s'agit tout simplement d'informer essentiellement les acteurs de l'écosystème local sur cette opportunité qui s'offre à la ville de Kananga de pouvoir bénéficier de la formation, de l'assistance technique, en termes d'accompagnement pour pouvoir développer les PME, pour pouvoir développer les femmes qui entreprennent, les femmes entrepreneurs au niveau de la province. Je voudrais préciser que Kananga n'est pas la première ville. Hein. Nous avons fait ce travail-là en Ituri, dans la ville de Bunia, à Mbujimayi, et Kananga, c'est notre troisième étape. Vraiment une sensibilisation au niveau surtout des autorités provinciales pour qu'ils s'approprient le projet et pour qu'ils apportent leur soutien dans sa mise en œuvre. Le projet se nomme projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs, de mise à niveau des PME pour la création de l'emploi et la transformation économique de la RDC.
Voilà, autrement dit, transforme, c'est ça. Qu'est-ce que ce projet prévoit?
Donc, il n'y a pas une spécificité prévue dans le projet pour la ville de Kananga. Ce que je vais dire concerne les 7 villes du projet. Donc, le projet, comme vous le savez déjà, couvre les villes de Bunia, Mbujimayi, Kananga, Bukavu, Goma, Matadi et Kinshasa. Donc, pour toutes ces villes-là, le projet s'adresse essentiellement aux femmes entrepreneurs, aux PME nouvelles qui se sont créées et aux PME existantes. Il y a aussi un appui qui sera apporté aux institutions de microfinance. Donc, il y a une composante essentielle qui porte sur l'accès au financement et l'inclusion financière. Et dans cette composante, il est prévu également un fonds de garantie qui sera géré par le Fonds de promotion des microfinances et qui est d'un montant important de 47 millions de dollars qui seront gérés par le Fonds de promotion des microfinances qui, pour pouvoir apporter un appui aux PME qui, pour l'essentiel, manquent de garanties et sont de ce fait exclus du système bancaire. Aussi, le projet prévoit la création des centres des PME qui sont des espaces où se retrouvent des PME, où s'installent des PME et ils mutualisent un certain nombre d'équipements. Donc, le projet également portera un appui et une assistance technique à des structures comme l'ANADEC et l'ANAPI. Mais pour les opérateurs de Mbujimayi, ils doivent savoir que c'est les femmes entrepreneurs, PME nouvelles et les PME existantes. Et ils doivent aussi savoir qu'il y a un appui qui sera apporté aux institutions de microfinance pour pouvoir les aider dans le développement de leur projet également.
Le coût du projet Transforme, vous avez cité cette ville. Comment s'est fait la répartition?
Le coût du projet est de 300 millions, mais attention, les 300 millions ne sont pas répartis par ville. Les 300 millions ne sont pas répartis par ville, c'est une cagnotte qui concerne l'ensemble des villes. Alors, la ville qui s'organisera le mieux rafle la mise, c'est-à-dire que si les entrepreneurs de la ville de Kananga sont bien organisés, qu'ils soumettent des plans d'affaires qui soient acceptables, pourront rafler les 100 millions, pourquoi pas. Donc, il n'y a pas une enveloppe réservée par ville. L'enveloppe et concerne les 7 villes. Ça, c'est du moins au niveau de la première composante qui apporte le soutien aux femmes, aux entrepreneurs, les PME également. Alors, pour la composante 2, ça concerne les institutions de microfinance appuient justement le secteur de PME. Là, c'est des activités qui ne mettent pas en compétition les villes. Voilà.
Monsieur Alexis Mangala, nous vous disons merci.
Je vous remercie, mon cher François.
C'était l'invité de ce journal, le coordonnateur du projet d'appui pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. Alexis Mangala s'entretenait depuis Kananga avec François Kadima. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.